Cause commune à Paris, 93.1 en FM, sur le bloc 9A du DAB+, et partout ailleurs, causecommune.fm et sur l'appli Cause commune.
Oui, bonjour, nous sommes en direct. Isabelle, Jérôme à la technique, salut Jérôme.
Bonjour Isabelle.
Et alors aujourd'hui c'est une grande première à plus d'un titre, parce que d'abord parce qu'on n'a jamais rien fait juste toi et moi là, sur une émission en direct en plus à la radio, et une grande première parce que aujourd'hui notre invitée est une invitée bien spéciale, on est vraiment contents. Blanc, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les deux et à tout le monde.
Et que on est vraiment contents que tu aies fait tout ce déplacement de la Drôme jusqu'à chez nous ici à Paris. Au studio de la radio. Et alors pourquoi on est content? Parce que voilà, qu'est-ce qui se passe? En fait, moi je trouve que c'est plutôt bien que les radios associatives notamment, en tout cas pas les radios mainstream, s'ouvrent régulièrement vers des contenus, des choses écrites, réalisées, chantées, produites par d'autres ailleurs, en dehors. C'est une habitude qu'elles ont prise et qui permettent que soient diffusées des choses qui sinon seraient peut-être cantonnées à juste un univers particulier. Donc on est vraiment vraiment contente de pouvoir inviter à la fois toi et toute ta production, tes émissions dont on va parler là pendant une heure, on s'est donné une petite heure, pour faire cette chose-là et accueillir prochainement la diffusion régulière de tes émissions.
Tout à fait, oui. Tu veux? Alors j'enchaîne.
Allez, enchaîne.
Oui, mes émissions du poil sous les bras. Très légère correction, je suis pas exactement venue de la Drôme, puisque du coup j'ai déménagé à Foix, donc pour être tout à fait exact,
oui,
maintenant je suis en Ariège, mais c'est assez récent.
D'accord.
Et en tout cas, ça va pas changer grand chose dans ce que j'ai à vous dire, puisque effectivement, par exemple, quand Du Poil Sous les Bras est né, c'est parce que avant toute chose j'ai quitté Paris, et que sur ma radio locale il y avait bien évidemment des programmes locaux, et heureusement que ces radios locales et que ce tissu-là existe en France. Mais moi, j'avais envie de continuer, on va dire, à faire le même genre d'émission, un peu ce que je faisais plus tôt sur Paris. Et la France étant un pays extrêmement centralisé, c'est vrai que si on a envie d'écouter beaucoup des chercheurs en sciences sociales, des gens qui sont des universitaires, il y en a quand même beaucoup sur Paris ou dans des grandes villes. Mais c'est vrai que c'est plus dur dès qu'on est dans un tout petit village, comme c'était le cas en Drôme, ou même dans une préfecture comme Foix, où je suis aujourd'hui. C'est un peu plus compliqué. Et du coup, je me suis dit, j'ai quand même envie de faire ça, et j'ai envie de le faire sur des radios locales, d'écouter des gens que j'ai envie d'entendre et de les écouter comme moi j'ai envie d'écouter des fois les radios locales, c'est-à-dire en me baladant, en attendant rien de spécial. Et en mettant la radio et en voyant sur quoi je tombe, et je trouve que c'est ça un peu le plaisir de la bande FM, quoi.
Absolument.
Par rapport au podcast qu'on a aujourd'hui, enfin en tout cas à l'écoute en mobilité qui est très dirigé en général.
C'est ça. Là, on va pas chercher, on attend et on reçoit des choses qui sont. Et du coup, moi j'ai les premières questions. Jérôme, tu m'arrêtes dès que tu veux poser une question, hein, parce que sinon, tu sais comment je suis. Donc, j'aimerais bien d'abord poser des questions sur le format en fait du poil sous les bras, parce que en les écoutant, on en a écouté quand même plusieurs. Et en les écoutant, je me dis tiens, c'est intéressant. C'est un format dans lequel à la fois c'est un dialogue et en même temps non. C'est-à-dire, en même temps, c'est un dialogue dans le sens où vous êtes deux, généralement, à parler, toi et ton invité, d'une thématique que tu présentes, on sent bien qu'il y a par ailleurs des échanges et des discussions, mais dans la production elle-même, en fait, c'est comme si ça disparaissait, et donc il y a l'une, puis l'autre, puis l'une, puis l'autre. D'où ça vient ce format-là, j'allais dire ce nettoyage presque, je veux dire ça, c'est pas, de l'échange?
Ben, en fait, justement, le format, il a été un petit peu contraint par le fait d'être en province, de vivre dans un petit village. C'est-à-dire que au début, il y a eu des émissions que j'ai essayé de faire en studio. Il se trouve que pour mon travail, par ailleurs, il m'arrive de passer à Paris, comme aujourd'hui, et j'en suis ravie. Et j'aime beaucoup Paris, même si j'ai quitté Paris. Mais des fois, c'était un peu compliqué. Ou par exemple, si vous faites une interview, et ça a été le cas notamment pendant la période du Covid, où j'ai été obligée de faire des interviews aussi en visio, c'était beaucoup plus problématique aussi d'avoir un échange, on va dire en direct, un entretien qui soit pas monté.
D'accord.
Et puis je crois que je suis Je sais pas, je suis peut-être un peu psychorigide sur les échanges, mais j'avais envie que les choses soient très claires. Et des fois, moi, je suis pas très claire. Les invités le sont souvent un peu plus, mais moi, pas forcément. Et du coup, j'avais envie de retravailler au maximum pour que finalement, quand l'émission, quand l'entretien est monté, alors même si je garde hein, globalement, absolument en général, la parole de l'invité dans l'ordre dans lequel on a discuté, mais je rajoute des fois des petites informations où je nettoie un petit peu, juste dans un souci aussi que ce soit un peu plus clair. Non pas que je prends les gens pour des imbéciles, que je me dis « Oh, ils vont pas comprendre, faut que je rajoute cette info », mais plutôt parce que moi, je me dis « Ah, moi, j'ai dû l'écouter deux fois parce que j'ai pas bien compris ce qui s'est passé ». Donc je me dis « Bah, peut-être que d'autres gens qui vont écouter en direct et qu'on pense plus par rapport à moi, pas préparé l'émission, pas lu le livre, pas... bah peut-être qu'il y a des choses qui vont échapper. » Et du coup, j'essaye de compléter. En tout cas, moi, dans ma logique, c'est vraiment un peu pour rendre service, pour faire quelque chose d'un petit peu plus propre, pour être sûr de donner le maximum de chance en fait aux idées qu'on a envie de faire passer dans l'émission et de découvrir. Donc c'est un peu de là que vient le format.
C'est drôle que tu dises ça. Tu peux mettre, Jérôme, le petit extrait là que j'avais sorti. C'est presque les mêmes mots que j'avais retrouvés dans une de tes émissions.
C'est explication par blanc,
ouais,
c'est ça ?
Ouais.
Alors on écoute.
On écoute l'extrait.
Vous voyez, je m'éclate dans cette émission parce que même moi, souvent, je suis obligée de réécouter 3-4 fois si je veux me laisser pleinement pénétrer par tous les mots et les concepts évoqués par mes invités. Et si, comme moi, vous êtes un peu perdu au début, raison de plus pour écouter car vous sortirez de l'émission mieux équipé pour décrypter le monde.
Tu vois, ouais, bah, c'est un peu ça, c'est drôle.
Mais
fidèle.
C'est exactement ça, ouais. Je crois que j'ai vraiment un souci, peut-être parce que moi qui n'ai pas un parcours universitaire et qui ai beaucoup milité avec des gens qui avaient des parcours universitaires et notamment des copines qui avaient des références, des tas d'ouvrages sur lesquels elles s'appuyaient, des théories, de connaissances. Moi j'avais pas ça. Et du coup, je crois que je me suis toujours sentie un petit peu en dessous dans la compréhension peut-être des idées, des concepts, et j'avais envie d'essayer de faire en sorte que l'émission elle soit bien compréhensible et que du coup moi il y a des choses sur lesquelles je me heurte un peu et je sais très bien, et surtout si on a un programme qui est ouvert au plus de monde possible, qu'il y a des gens qui vont être comme moi qui vont écouter la phrase et qui vont dire oui bon là c'est un peu complexe. Alors malgré tout ça, je pense que ça reste une émission qui peut être par moment un peu ardue à écouter. Et c'est un de mes objectifs, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident d'avoir le temps de s'en occuper pleinement, mais c'est un de mes objectifs d'essayer de rendre l'émission un petit peu plus digeste, parce que je sais que certaines fois c'est compliqué quoi. Je laisse des temps de parole peut-être un peu longs, et se concentrer pendant même 7-8 minutes à écouter, je pense à l'émission avec par exemple Natacha Chetkouti-Osorovitz, je me dis bon en fait c'est hyper intéressant. Mais il faut que je pense à l'auditrice qui est peut-être un petit peu moins à l'aise que moi à écouter ça, ça va être dur. Et du coup, j'aimerais arriver à... C'est pas vulgariser, c'est pas simplifier, c'est juste...
Je comprends, il y a pas
organiser l'info...
Pour qu'elle soit vraiment accessible, ouais. Et sans préjuger de comment les gens en face sont... Ouais.
C'est un peu comme moi qui bosse dans le handicap par ailleurs, c'est un peu comme les méthodes Falk, faciles à lire et à comprendre, ou les écrits simples qu'on utilise pour les personnes avec des dysphasies, des dyslexies et autres. C'est-à-dire, c'est essayer de présenter l'information de la façon qu'elle soit le plus simple à intégrer pour n'importe qui l'écoute. Alors souvent, c'est vrai qu'on va dire « Ah oui, mais on n'est pas là pour parler... » Enfin, je vais quand même insister sur cette idée d'ailleurs, tant qu'à faire à vous parler de ça. C'est vrai que souvent, et par exemple le gouvernement aujourd'hui à l'école, alors je dis aujourd'hui, il va peut-être pas tenir très longtemps du coup, mais bon, enfin en tout cas, la politique macroniste, on va dire depuis des années, nous fait croire qu'il faut, pour tirer par exemple les élèves ou les gens vers le haut, faire des groupes de niveau, mettre les bons entre eux, puis laisser les... Voilà. Bon, moi je suis persuadée, et des chercheurs et chercheuses l'ont démontré, que c'est absolument l'inverse qu'il faut faire. Et par exemple, les études qui existent, les gens qui ont démontrer que, en fait, quand vous adaptez quelque chose et que vous essayez de faire en sorte que le plus grand nombre comprenne, eh ben, en fait, tout le monde va comprendre et ça va être plus simple pour tout le monde et ça va être mieux pour tout le monde, en fait. Ça va tirer tout le monde vers le haut, très clairement. Voilà, on pourra s'étaler sur le sujet si vous avez envie un jour, ou peut-être j'en ferai une émission. Mais voilà. Du coup, j'aurais tout à gagner à essayer de rendre ces propos-là plus simples, des fois plus digestes, mais vraiment dans la forme, c'est pas dans le fond. Dans le fond, je choisis mes invités quand même avec beaucoup d'attention et c'est des gens qui ont, à mon sens, des choses extrêmement intéressantes à nous raconter. Et du coup, je vais essayer de leur rendre un maximum service dans le format de l'émission, quoi.
Mais, alors justement, du poil sous les bras, c'est une des questions qu'on peut se poser, parce qu'il y a, quand même aujourd'hui, il y a quoi, il y a 80 épisodes à peu près ?
Non, il y en a une soixantaine, ça va être la septième saison qui commencera.
Comment tu vas chercher tes invités, sur quelle base tu les prends, et ensuite, comment tu décides d'un thème que tu veux aborder ou pas ?
Bah, c'est vraiment, je fais de la veille, on va dire de la veille, je regarde un peu ce qui se passe dans le monde de l'édition, parce que souvent, c'est vrai que je me base un peu sur des livres qui ont été produits, donc souvent peut-être par des chercheurs, des sociologues ou autres, pour plusieurs raisons. D'abord, ça permet de m'assurer que j'ai un invité, une invitée en l'occurrence, qui a quand même bien pensé son sujet et qui va pouvoir tenir la route sur une heure et raconter plein de choses. Donc c'est important de, voilà, de vérifier que c'est quelqu'un qui a quand même bien bossé son sujet. Ça peut être souvent, par exemple, des personnes qui ont fait des thèses sur, sur leur sujet, donc en général qui sont un peu calées sur ça. Je vérifie quand même que ce sont des gens globalement avec qui je vais être très raccord politiquement. Bon, pour le faire simple, hein, je vais prendre plutôt des gens qui politiquement vont être comme moi, plutôt à gauche. Voilà, c'est pas une règle absolue parce que des fois je sais pas forcément, je connais pas toutes mes invitées par ailleurs. Mais je vais vraiment prendre le temps ou d'aller voir qu'est-ce qu'elles ont écrit, je sais pas, des vidéos, de voir comment elles parlent, comment elles s'adressent aux gens. Enfin, je veux dire, des fois il y a quand même des petits signes quand on écoute les gens, on peut, à mon sens, assez globalement, des fois, se rendre vite compte de, voilà, si la personne, on va être un peu raccord ou pas. Bon, déjà, en général, sur les sujets qui m'intéressent, je vais mécaniquement tomber aussi sur des gens qui, avec qui je sens, je vais me sentir un peu proche. Alors, ça veut pas dire, parce que j'entends déjà les critiques de vos auditeurs de droite, quoi, mais on n'est plus,
je sais pas. Auditeurs de quoi?
Je sais pas, vous avez peut-être. Non, mais des gens qui vont dire, ah oui, bah, vous prenez des gens militants comme si ça désavouait leur parole et comme si ça faisait que leurs travaux étaient suspects de pas être complètement objectifs. Alors d'abord, bon, je connais pas vraiment de travaux forcément objectif. Complètement objectifs. Hein, les gens, ils parlent du point de vue qui est le leur avec leur expérience et ce qu'ils sont. Par contre, non, je pense que j'attache vraiment une importance à des gens qui, voilà, ont une exigence par rapport à leur travail. Et il y a des gens de gauche que je n'ai pas envie d'inviter et que j'inviterai pas parce que je trouve qu'ils sont pas assez exigeants là-dessus. Et voilà. Et là encore, dans le travail que je fais par ailleurs et notamment dans le champ social du handicap, on travaille beaucoup sur ça, sur par exemple des recherches, s'assurer qu'il y a un fondement scientifique, qu'on est vraiment quand même dans quelque chose d'un peu sérieux. Bon, ben, moi, j'essaye d'avoir un peu la même démarche avec ce que je fais dans Du poil sous les bras, enfin, pour choisir mes invités, ouais, c'est sûr.
Ce sont des invités et ce sont des personnes qui sont identifiées ou elles-mêmes qui se disent des femmes.
Oui, alors quasiment à 100%, pas exactement parce que j'ai eu deux personnes trans dans l'émission, mais sinon, c'est vrai que c'est des femmes.
Des femmes trans.
Non, j'avais fait le pilote à l'époque avec Océan, qui était en pleine transition. C'était vraiment ses débuts de sa transition. Et du coup, là, comme on s'était croisés par ailleurs, je trouvais ça marrant de faire un pilote avec lui. Et puis ce sujet était peut-être un peu moins abordé. C'était quand même du coup, il y a déjà 6 ans. Mine de rien, sur ces sujets-là, c'est des choses qui sont pas si anciennes, en tout cas, dont on entendait un petit peu moins parler. Et après, j'ai eu une autre invitée qui, à l'époque, était genrée, en tout cas officiellement dans les médias, en tant qu'homme, mais que je pressentais très fortement être quelqu'un qui allait faire une transition. Donc, j'ai pris ce risque-là et je l'ai d'ailleurs pas genrée au masculin dans l'émission. J'ai fait attention à essayer d'être neutre tout le temps. Voilà, parce que je savais que de toute façon, ça allait évoluer vers ça. Et en tout cas, c'est pour ça que je l'ai pris. Ça veut dire que pourquoi pas demain, je dis pas que je pourrais pas avoir un homme cisgenre dans l'émission, mais je me dis, bah, en fait, maintenant que j'ai commencé comme ça, c'est peut-être un peu bête, autant laisser la parole aux femmes qui l'ont quand même globalement moins, et surtout sur certains sujets.
Ça, tu continues à dire que c'est vrai, là, dans les années 2020.
Oui, bien sûr. Et on le voit très clairement dans les médias, notamment dès qu'il s'agit de moments un peu plus de crise. C'est-à-dire que si vous avez des crises, là où on a laissé les femmes un petit peu parler, oh là, attention, c'est la crise, et on va nous remettre des tas d'hommes sur le plateau, parce qu'ils, quand même, ils connaissent un peu mieux les femmes.
C'est des sujets sérieux, quoi.
Bah, exactement, voilà. Bah, et puis, ça. En plus, avec quand même l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir, on va pas se le cacher, voilà. C'est évidemment mécaniquement, ça re-enterrera la parole et re-invisibilisera beaucoup de femmes. Donc je pense que c'est intéressant. Et puis moi, ça m'oblige. En fait, souvent, on a des gens qui nous disent « Oui, mais on n'a pas trouvé de femmes. » En fait, on peut trouver des femmes sur absolument tous les sujets et des femmes qui sont extrêmement intéressantes et passionnantes. Donc après, c'est l'effort qu'on fait. Donc moi, ça me demande effectivement plus de boulot. Parce qu'il y a des sujets sur lesquels je me dis « Ah, j'aimerais bien qu'une nana me fasse un bouquin là-dessus et je vais chercher. » Et des fois, bon, faut peut-être attendre un peu ou j'attends le bon moment. Mais en vrai, en tout cas, j'ai jamais eu un sujet que j'ai eu envie de traiter sur lequel je me suis dit « Il n'y a pas de femmes. » Par contre, il y a des hommes extrêmement intéressants. Que oui, évidemment, je me dis, ah, oh, c'est con, j'aurais bien invité.
J'aurais bien invité s'il était une femme. Voilà.
Mais je me dis, bah, autant rester là-dessus. Autant rester pour c'est bien.
Mais puisque ton émission, comme tu le disais en intro ou au début, tu disais que ton émission, elle est quand même très montée sur du dialogue. Et puis, comme tu dis, tu rajoutes aussi un peu des données ou des infos pour essayer de clarifier ton propos. Tu pourrais aussi faire des inserts d'une émission entre vous et puis un insert d'un homme que tu trouves super en disant, bah, tiens, et si on s'appuyait sur ce que vient de dire, truc muche.
Alors, mais tout à fait. En fait, le truc, alors, je pourrais, par ailleurs, d'ailleurs, que ce soit un homme ou une femme ou n'importe quel autre, on va dire, son ou que je pourrais amener dans l'émission. C'est juste, des fois, un peu plus de boulot. C'est juste, des fois, j'ai trop de paroles et je suis obligée, en fait, d'en enlever. Alors, bah, j'ai pas, voilà. Bon, c'est des questions et c'est des rapports aussi au temps passé, à l'intérêt que ça peut avoir ou pas. Enfin, voilà. Bon, c'est des questions, évidemment, que j'ai en tête. Après, oui, ça peut être intéressant, mais pour moi, c'est pas forcément, c'est pas grave en fait.
Oui. Et puis, alors il se trouve que pour préparer cette émission avec Isabelle, on s'est réparti un peu la tâche de qu'est-ce que tu vas écouter toi, Isabelle, et qu'est-ce que tu vas écouter toi, Jérôme. À l'arrivée, en tant que homme, je trouve ça pour le coup intéressant de se dire je vais écouter des femmes parler et c'est vrai, pour une fois, on n'aura pas. Je vais avoir une écoute qui sera différente en tant que mec d'écouter deux femmes qui parlent plutôt que une insertion d'une voix masculine quelque part, quoi. Ça propose une expérience différente.
Tu vois, enfin, je vous tutoie.
On a dit qu'on se choisit.
Mais par exemple, quand j'ai commencé l'émission, au début, je disais oui, je fais une émission avec des femmes, et tout de suite, on rangeait l'émission dans c'est une émission féministe, au sens de sujets féministes qui vont n'intéresser que les femmes, blablabla. Enfin voilà, il y a toute une logique derrière ça. Et je disais mais non, c'est une émission qui est féministe au sens où j'invite des gens qui sont quand même qui ont travaillé un peu le sujet en général, voilà. Mais c'est pas les émissions féministes comme on les entend. Mais c'est vrai que si moi demain j'entends la radio deux hommes parler, je vais pas dire c'est une émission masculiniste qui va intéresser que les mecs. J'entends deux mecs parler, c'est naturel. Si moi je dis aux radios moi j'ai que des femmes, on va dire c'est une émission féministe. Et du coup c'était pour essayer de aussi je me dis et la preuve c'est qu'on en parle. Donc c'est toujours un sujet et ça permet de discuter de ça. C'est quoi une émission féministe? Alors pourquoi? Et le fait qu'il y ait que des femmes, est-ce que c'est gênant? C'est pas gênant? C'est un choix? Est-ce que le choix, il serait... Bon. Et je pense qu'il y a des émissions, on regarderait de près, et d'ailleurs, on le voit, il y a des émissions qui vont être énormément consacrées à des hommes avec que des hommes. Ça va choquer personne. Des fois, ils vont mettre peut-être une femme de temps en temps, histoire de dire, ou de pas se faire attaquer peut-être, je sais pas. Mais en fait, ça va pas être un sujet. Si vous faites la même chose avec que des femmes, ça peut devenir un sujet, pas pour tout le monde. Du coup, maintenant, je le mets moins en avant. Je dis, j'invite des personnalités. C'est plus neutre.
Mais du coup, est-ce que pour faire un petit pas de plus là dans ce sens-là, tu disais tout à l'heure que les savoirs sont quand même situés. Donc, ils sont situés là par rapport à des... Tu parlais des questions de gauche-droite, mais on pourrait les situer d'un point de vue classe sociale, d'un point de vue, etc. Mais est-ce que les savoirs sont genrés eux-mêmes? C'est-à-dire que quand tu dis je vais chercher... des femmes, s'il y a des femmes qui ont parlé de tel sujet, c'est une chose. Est-ce que c'est parce qu'elles sont femmes qu'elles en parlent comme ça, ou parce qu'elles s'identifient elles-mêmes, ou parce qu'on les identifie, que ce qu'elles disent est ce qu'elles disent, ou c'est simplement le trajet qu'elles ont dû faire pour accéder au savoir qu'elles mettent en œuvre là?
Je pense que, de fait, moi, je suis pas en train d'essentialiser, dire les femmes, les hommes, mais on a quand même, comme on construit les femmes et les hommes très différemment des tout petits, forcément on n'aura pas les mêmes regards. Après, même entre deux hommes, on n'aura pas les mêmes regards non plus. Je suis pas en train de dire que c'est l'alpha et l'oméga de voilà. Mais à partir du moment où on a quelqu'un d'honnête avec le travail qu'il ou elle fait, il va produire un travail et il va essayer de le produire de la façon la plus neutre possible par rapport, peut-être si c'est un chercheur ou un scientifique, par rapport à son genre, sa classe ou autre. Il n'empêche que, évidemment, ça aura un impact. Moi, j'ai été construite en tant que femme. Je pense que ce que je fais, c'est empreinte de moi, de ce que je suis, et j'ai été construite d'une certaine façon. Donc, je vais avoir un certain regard. Mmh. En plus de ça, comme effectivement, je prends... Enfin, en tout cas, parmi mes invités, il y en a quand même beaucoup qui sont féministes. C'est-à-dire, féministes, pour moi, c'est au sens où elles ont réfléchi à ces rapports de domination, de genre. Et du coup, comme elles ont réfléchi là-dessus... En général, ça apporte un plus à leur travail. C'est-à-dire que, pour moi, c'est pas tellement qu'elles ont un regard différent, c'est que ça apporte un plus parce qu'elles vont en plus avoir cette lecture-là. Et ça, ou pas, il y a des sujets sur lesquels peut-être ça joue moins, mais il y a des sujets sur lesquels... Je prends l'exemple d'une émission qui est très ancienne, mais avec Vanessa Kodachioni sur la légitime défense, quand la loi a été renforcée pour permettre, en gros, aux policiers d'être moins embêtés quand ils tirent dans le dos de quelqu'un. Une féministe va avoir le regard tout de suite, va effectivement pleinement penser au cas de femmes qui, par exemple, tuent leur mari dans le cadre d'une relation où elles subissent des violences sexuelles ou sexistes. Et la légitime défense va pas forcément être une bonne idée. Et si vous interviewez une femme sur la question qui a déjà réfléchi à ces sujets-là, ça va être un peu intéressant. Alors, évidemment, il y a des hommes qui l'ont réfléchi aussi, mais c'est vrai que ça va plus facilement, par exemple, je sais que Vanessa Kodachioni va plus facilement faire attention à ça et pouvoir, dans le cadre de son travail, avoir aussi cette situation-là dans la tête et expliquer d'ailleurs pourquoi c'est pas forcément une bonne idée d'aller vers plus de souplesse pour tirer, parce qu'au final ça peut avoir aussi d'autres conséquences, voilà. Mais voilà, je trouve ça intéressant. Puis après, quand vous faites une émission comme moi, vous faites ce que vous voulez, quand vous faites ce que vous voulez, c'est dur au final. Je me suis dit si déjà j'enlève les hommes, ça m'enlève un peu. Ouais. Il me reste beaucoup de monde, donc je suis pas embêtée à trouver des gens, et au moins ça fait un choix.
Mais tu disais aussi tout à l'heure, quand on commence à parler de ces sujets, du choix d'inviter que des femmes, tu disais ça t'amène plus de boulot parce qu'il faut aller les chercher. Et là on a une question de Madix sur le salon qui dit, mais est-ce que ça aussi donne des difficultés en plus à convaincre tes invités à intervenir, un peu le syndrome de l'imposteur ou de l'imposture, de dire
la légitimité.
Nous, c'est ce qu'on, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Là, j'avais une émission cet après-midi, l'invité et eux. J'ai dû la convaincre, j'ai dû lui dire mais si t'es légitime pour prendre la parole, ton propos ça va être assez intéressant. Quand au départ, il dit non, j'ai pas très envie. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu ressens?
Alors, moi, je le ressens à titre personnel. C'est-à-dire que moi, j'ai mis beaucoup de temps, par exemple, alors que je pense que l'émission, elle est chouette. En fait, on me dit qu'elle est chouette. Et finalement, à arriver à en parler, à la défendre et à me dire, ouais, en fait, elle a de la valeur, cette émission, elle est intéressante. Parmi mes invités, j'ai pas tant ça. Pourquoi? Parce que, encore une fois, quand je prends des personnes, par exemple, qui ont écrit un bouquin, elles ont quand même envie d'en parler. Et si elles ont fait le pas d'écrire un bouquin ou qu'un éditeur ou une éditrice a choisi leur thèse, voilà... Oui. Bon, du coup, j'ai pas tant eu. Je cherche là dans ma mémoire, mais je. Enfin, si. Alors, c'est marrant. J'ai eu le cas sur un bouquin sur les gilets jaunes. L'émission n'est pas faite, mais peut-être elle sera dans les prochaines émissions de la saison 7. C'est un bouquin qui est sorti il y a pas longtemps. J'ai plus le titre en tête, mais il s'appelle Les gilets jaunes. Je sais plus. Bon, c'est un bouquin qui a été coordonné par Johanna Siméan, qui n'était pas disponible. Elle m'a dit mais on a une jeune qui a bossé avec nous. Elle est super. Appelle-la. Et elle, effectivement, quand je lui ai envoyé le message, elle m'a dit je suis peut-être pas à l'aise et tout. Alors que je pense et Johanna m'a dit non, mais elle a toutes les qualités. Bon, évidemment, son nom m'échappe, je m'en excuse auprès d'elle si elle écoute, mais voilà. Et du coup, tout de suite, elle a dit non, voilà. Bon, elle est un peu plus jeune, elle n'avait pas écrit seule le bouquin, et je lui ai d'ailleurs répondu écoute, à mon sens, tu as toutes les qualités. Bon, de toute façon, elle n'était pas là, c'était pas possible. Et du coup, je lui ai dit ça, je lui ai dit prends confiance, vas-y, fonce. Et elle m'a en plus conseillé d'autres personnes, et ça aussi, c'est un truc que les femmes font plus facilement. C'est-à-dire que si elle peut pas, elle va dire ah non, mais attends, moi j'ai Machine qui est super, Nanin que tu peux appeler, et elle m'a donné une liste de copines à elle qui bossent sur des sujets très intéressants.
Toujours sur ce sujet-là, c'est un peu ce que tu racontes. Moi, j'avais envie de réagir par rapport à une des questions initiales d'Isabelle sur le montage et sur la production. Moi, je trouve que quand on écoute toutes tes émissions, il y a une vraie qualité de production, c'est-à-dire que c'est très agréable à écouter. En tout cas, la forme est hyper agréable avec cette musique qui revient, qui fait une sorte d'intermède entre tes interventions et les interventions de tes invités. Est-ce que par contre le choix que tu fais ne peut, enfin moi c'est une question que je me suis posée, est-ce que À un moment donné, tu tords pas un peu, malgré toi ou pas d'ailleurs, les réponses ou ce que va te donner ton invité, puisqu'on n'est plus du tout dans un dialogue. En tout cas, la perception que l'auditeur a, c'est pas du dialogue. Je pose une question, je pose une réflexion et j'accompagne la réflexion de mon invité. Est-ce que t'as pas cette peur-là ou ce reproche-là qu'on puisse te faire de temps en temps?
Alors, je pense pas que je torde ce que va dire l'invité, puisque l'invité, elle dit ce qu'elle a à dire et c'est très bien. Par contre, moi, des fois, je peux me mouiller un peu ou peut-être avoir un peu moins bien compris, ou voilà. Mais moi, je me dis, ça reste ma parole. Et si moi, je dis un truc qui est voilà, un petit peu faux ou incompréhensible, moi, je me dis, ça reste moi. En tout cas, j'essaye de le faire le plus honnêtement possible. Évidemment, sûrement que des fois j'ai mal compris ou sûrement que des fois bon, mais je me dis ni plus ni moins finalement que d'autres. Et en tout cas, moi, c'est vraiment des invités que j'ai choisis parce que je les aime et que j'ai envie d'écouter ce qu'elles me disent ou que j'ai trouvé leur livre intéressant. Du coup, en tout cas, vraiment, j'invite pas des gens pour faire de la polémique. J'invite pas des gens pour dire, en fait, là, je suis pas trop d'accord. J'invite vraiment des gens en disant, ils ont analysé quelque chose qui me paraît intéressant et que je vais essayer de transmettre, de partager. Et du coup, sûrement que des fois je fais peut-être des erreurs ou des, mais je me dis bon, c'est peut-être pas la majorité du temps, en tout cas je l'espère.
Non, ça c'est sûr que non, c'est pas la majorité du temps. Moi j'avais même pas vu ce que t'as dit là, toi.
Ouais, parce que moi je suis tordu.
Mais je me suis posé la question. Je comprends ce que tu veux dire.
Parce que ce qui est sûr, c'est quand on est dans un dialogue en direct, quand on respecte, que ce qu'on soit en direct ou pas, mais quand on est dans un dialogue et qu'il y a une question et une réponse, après on peut toujours aussi, on le voit bien, on peut aussi monter, tordre, etc. Mais là c'est encore plus près.
Ouais, mais on voit bien que dans l'émission c'est pas ça.
Non,
mais en plus,
je trouve dur là, je trouve.
Non, c'est une question, c'est pas.
La question est complètement légitime. Après, vraiment, il se trouve que quand je reprends moi les paroles, donc c'était aussi pour des questions d'enregistrement, mais souvent je reprends un peu comme moi je l'ai amené à la personne. Et si la personne me dit, mais c'est pas ça du tout. Ouais. Au contraire, je vais essayer pas de gommer ça. Mmh. Je vais essayer de refaire la même erreur. Pour que derrière sa réponse, on comprenne que c'est pas exactement ça. Voilà. Parce que du coup, j'ai pas du tout, en tout cas, je pense pas, j'ai pas la science infuse et c'est ça l'intérêt, que moi, je me présente pas en tant que spécialiste. Du coup, moi, je suis complètement OK que la personne me dise ça marche pas comme ça, etc. Donc, j'essaye de garder ça au maximum. En tout cas, j'essaye d'être au plus proche du direct. Et je le fais vraiment plus pour nettoyer et souvent pour rajouter aussi une petite info. Par exemple, si la personne a dit, elle va dire une personne cisgenre, je vais essayer de reprendre derrière si elle n'a pas expliqué en disant, une personne cis, écoutez et que vous ne connaissez pas, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc, j'essaie en tout cas de le faire très honnêtement.
De toute façon, vu la variété des thématiques, des sujets que tu abordes, je vois pas comment. Enfin, c'est super compliqué c'est très 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 varié ce dont tu parles en fait. Hein. Parce que moi, dans tous les exemples, nous on en a.
Oui, il faut le dire, c'est du poil sous les bras. Il faut rappeler parce que les auditeurs et auditrices.
On l'a pas assez dit.
C'est du poil sous les bras. Donc et qui est effectivement des sujets très sociétaux, mais je te laisse la parole, Isabelle.
Sociétaux, je sais pas. En tout cas, c'est des sujets, pour moi, c'est des sujets politiques. C'est-à-dire que c'est vraiment, ou en tout cas la façon de les aborder, ramène à la fois les personnes, et politiques dans le bon sens du terme, hein, c'est pas du politicaille, c'est de la politique, du politique, dans le sens où, quand tu parlais tout à l'heure de la question homme-femme, et genré, etc., moi je pense qu'il y a quand même quelque chose qui reste, pour moi, en tout cas dans mon esprit, qui est l'anticapitalisme, il est aussi féministe, c'est-à-dire que sinon c'est compliqué, je trouve, il est antipatriarcal. Donc il y a un moment quand même, mais je peux me tromper, mais il y a un moment quand même où j'entends ça même dans tes émissions. Je sais pas si tu l'as fait toi, mais moi je l'y entends. Alors c'est vrai que les émissions que moi j'avais choisi d'écouter spécialement, puis de vouloir parler avec toi là-dessus, elles sont sur ces thématiques-là, mais quand même, même les autres, je les trouve empreintes de quelque chose dans lequel on appuie une parole, des paroles diverses, variées, mais qui sont toutes quand même sous un angle, sous un prisme.
En tout cas, c'est vrai que c'est l'idée. C'est-à-dire que pour moi, l'idée, c'était d'essayer qu'on comprenne un peu mieux le monde et notamment les systèmes d'oppression, de domination. Et donc, pour aller... Parce que l'objectif, au final, c'est de se dire, OK, allons vers plus de justice sociale, plus de justice environnementale, plus d'équité pour tout le monde. Voilà. Mais moi, là-dedans, et je te rejoins... pour moi, tout est politique, tout est lié. C'est-à-dire que moi, je peux parler des menstruations en me disant Je fais finalement, j'essaye d'expliquer un système. Alors là, on parle peut-être menstruation, mais même si on parle d'un sujet complètement différent, ça va être très intéressant de voir comment on a construit, par exemple, comment on a construit le rapport au corps des femmes, comment les hommes ont expliqué la menstruation, comment ils s'y sont pas intéressés à une époque, comment ils nous ont fait passer pour folles parce qu'on avait... Voilà. Et tout ça, ça participe à ce système. Et au final, c'est vrai que tout ça participe, à mon sens, à lutter contre effectivement le capitalisme ou autre, parce que je pense pas qu'on peut différencier les oppressions, se dire bah celle-là elle est bonne et puis pas celle-là. Du coup voilà, j'essaye que quel que soit l'angle des sujets, je pense qu'à part une ou deux fois, ça puisse nous permettre globalement d'essayer d'avoir une meilleure vision, de mieux comprendre des choses qui sont peut-être pourtant qui peuvent paraître éloignées, mais en fait le sont pas tant que ça. En tout cas de toute façon, je pense que plus on apprend, plus on peut avoir envie d'apprendre, plus on comprend des choses, plus on va en comprendre d'autres. Et du coup, c'est un peu de créer un cercle vertueux, de s'intéresser à des sujets et d'essayer de transmettre. Ouais. Et je reviens encore là-dessus, tu vois, moi je travaille aussi dans le handicap, et je suis atterrée quand des fois je vais fréquenter des personnes qui, par exemple, vont lutter contre, je sais pas, le fait de pas être dans une société inclusive, enfin en tout cas pour, mais que pour les personnes handicapées, mais vont pas s'intéresser, je sais pas, au sort d'autres personnes qui ont des problématiques. Moi, évidemment, je suis convaincue que c'est pas la bonne façon de faire, et que soit on va encore une fois lutter pour tous, pour tous les plus fragiles, et que ça va faire monter tout le monde. Ouais. Soit on va s'attaquer à certains et on va s'attaquer aussi à tout le monde. Donc voilà, en tout cas les émissions, c'est vrai que les sujets sont variés, mais moi je me dis je sais pas, ou alors c'est peut-être moi qui suis spécialement curieuse de plein de trucs, mais
Non, c'est génial, cette variété-là, elle est géniale. Juste, je fais une petite parenthèse, ça fait plusieurs fois que tu dis je travaille dans le handicap. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus qu'est-ce que ça veut dire dans le handicap ou,
ouais,
ou
bien sûr, parce parler. Que je suis ouais. pas médecin, en plus c'est une formule assez bidon, enfin de dire ça comme ça, mais en tout cas, une partie de mon travail consiste à accompagner des fois des fondations ou des organismes qui travaillent sur des thématiques du handicap, et notamment dans le champ de la recherche, et de la recherche participative et de la recherche appliquée. C'est-à-dire, c'est de la recherche qui a pour but de faciliter la vie des gens au quotidien. Donc ça va être,
d'accord,
si vous avez des TOC, comment vous faites pour enlever de la charge mentale aux personnes qui ont des TOC. Enfin, des choses assez concrètes. Et donc moi, j'aime bien ça, parce que ils sont pas en train de s'intéresser à la maladie, ou c'est vraiment, voilà, comment on fait pour répondre à certaines problématiques. Et il se trouve que j'accompagne aussi une fondation beaucoup sur dans le champ du transfert de connaissances, c'est-à-dire comment on fait en sorte que les résultats de recherche soient connus, soient reconnus, et surtout qu'ils aient une utilité sociale, c'est-à-dire que quelque part, on met de l'argent dans la recherche, puis des fois personne n'est jamais au courant qu'il y a eu cette recherche, ou des fois en tout cas elle a donné aucun résultat. Et on calcule assez peu en France encore, on regarde assez peu l'implémentation, l'évaluation des recherches, etc.
Et il y a des endroits où on le fait mieux, tu dirais?
Ouais, notamment au Canada, où ils commencent à, les organismes publics vont donner des budgets à la recherche, mais en disant, mais par contre, il y a une partie du budget qui va aller dans évaluation. Est-ce que ça a une utilité? Est-ce qu'au final, des gens se sont emparés des résultats? Est-ce qu'ils ont changé leurs pratiques, si c'est par exemple des professionnels? Et est-ce que ça a changé la vie des gens? Parce que sinon, alors je dis pas, il y a certains types de recherches qui vont pas avoir une application concrète directe, mais peut-être plus tard. Mais il y a quand même beaucoup de choses. Et moi, dans ce que je fais dans Du Poil Sous les Bras, c'est un peu ça aussi. Je me dis, il y a des fois des chercheurs, ou des chercheuses en l'occurrence, qui font un travail magnifique, exceptionnel, hyper intéressant. En général, alors déjà, s'il y a un livre, c'est déjà pas mal. S'il y a un livre qui est dans une maison d'édition, un peu connu, déjà le travail va être un petit peu connu. Mais ça va rester des fois un peu marginal. Et je me dis, du coup, rajouter à ça une émission radio, ça permet que tout ce travail qui a été fait, il soit un peu plus utile pour tout le monde finalement. Parce que ces chercheurs, ces chercheuses, sociologues, les profs, c'est pareil, on les paye avec nos impôts. Enfin, je veux dire, c'est du bien public, c'est du bien commun.
Donc, bien commun.
On a envie que le livre que personne. Moi, en fait, je choisis souvent des livres que je ne lirais jamais si j'avais pas l'émission.
Ouais, c'est ça.
C'était une question que j'avais envie de poser, ça. Alors là, je l'ai un peu posé tout à l'heure, mais oui, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que tu vas chercher des livres. Si t'avais pas l'émission,
je les lirais pas.
Tu les lirais pas. Ah, et là, tu te forces à les lire?
Alors, je me force pas. Enfin, je me force pas parce que je suis contente de le faire. Ouais. C'est pour Du Poil Sous les Bras. Mais ce serait pas pour Du Poil Sous les Bras. Je sais pas si. J'ai fait une émission avec des copines paysannes sur une BD, Les Paysannes en Polaire, sur le sexisme dans le milieu paysan. Cette BD, c'est clair que je l'aurais achetée pour moi. C'est marrant, c'est une BD. Les bouquins dernièrement que j'ai lus, je suis pas sûre que non, je suis.
Allez, il y en a un. À moins que toi, tu veux y aller sur une de tes émissions.
Non,
c'est correct.
Ouais.
Parce que du coup, bah, est-ce que tu aurais lu Non, on ne va pas lui faire ça.
Ah, par contre, quand je fais des émissions, je l'ai lu. Je l'ai lu entièrement et intégralement.
Mais est-ce que sinon, tu l'aurais lu, le livre de Célia Izoard, La ruée minière au XXIe siècle?
Ben non, je ne pense pas. Je pense que je ne l'aurais pas lu parce que. Enfin, je ne l'aurais pas lu. Celui-là, j'allais dire, c'est entre deux. Ça aurait pu être un bouquin qu'on m'offre et que je lis avec plaisir.
Oui.
Mais ça reste des bouquins un peu techniques sur des sujets. Enfin, je suis méchante de dire ça parce qu'il n'est pas très technique.
Il est
hyper facilement lisible.
Par exemple,
Célia Izoard, elle a participé avant à l'époque à la revue Z, à d'autres choses. Oui. Je pense que je lis plus facilement, par exemple, des articles. J'aurais lu des articles sur l'activité minière. J'aurais lu un article de Célia très facilement sur. Voilà. J'aurais peut-être pas été m'acheter ce bouquin-là parce que du coup, j'aurais dit, bah non, tiens, je vais prendre plutôt un bouquin plaisir, quoi.
Et est-ce que tu connaissais un peu le sujet, toi, par exemple, sur un sujet comme ça qui est quand même hyper précis, que moi j'ai traité par ailleurs parce que je m'intéresse à la question de l'extractivisme et des D3E par ailleurs pour l'informatique. Bon, très bien. Et donc, du coup, pour moi, ce qu'elle défend là et ce qu'elle développe de manière magnifique, qui est de dire, la mine est un des outils de base fondamental du capitalisme et du colonialisme. Et c'est avec ça, avec cette idée-là d'aller gratter la terre, s'approprier la terre des autres ailleurs que on a pu mettre en place la colonisation, des esprits également, et pas simplement des territoires. C'est vraiment hyper bien décrit. Est-ce que tu as lu d'autres choses là-dessus avant? Est-ce que tu t'étais intéressé à ce sujet? Enfin, tu vois, comment tu arrives là? Comment tu tombes pling sur ce livre-là, toi?
J'avoue, comme du coup, ça fait... au minimum 6 ans, mais sûrement un peu plus quand même, que je m'intéresse à beaucoup de sujets. C'est pas quelque chose qui va complètement me surprendre. Oh là là, mais oui, il y a toute cette pollution, c'est fou. Voilà, je pense que j'ai un peu plus accès à l'information que des personnes qui, de par leur métier, n'ont pas autant de liberté que moi de pouvoir lire, découvrir, rencontrer des gens aussi chouettes qui me racontent plein de choses. Du coup, par exemple, moi j'ai milité aussi un peu sur l'antinucléaire, sur des choses qui donc sont complètement liées aussi au système extractiviste. Donc, je suis déjà un peu imbibée. Mais c'est sûr que le livre de Célia, c'est une enquête beaucoup plus approfondie et j'ai appris aussi quand même énormément de choses et ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin dans la réflexion et dans la compréhension de ce que c'est, de ce que c'est que l'homophabère dont elle parle, de ce que c'est que les conséquences, voilà. Mais c'est vrai, quand on est déjà militante écolo, qu'on fait déjà d'autres choses, on a quand même déjà des petites idées que c'est pas terrible, quoi. pour le dire de façon très pléonasme ou je sais pas comme euphémisante, voilà, bon, c'est même complètement catastrophique ce système. Mais
dans cette émission là tu prends un soin particulier aussi, j'ai trouvé, à expliquer les termes et puis à pas les laisser juste dans le flou, comme si c'était un mot que tout le monde comprend, tu sais, le mot transition par exemple, que tout le monde emploie à tort et à travers, transition écologique, de quoi on parle, quoi, c'est n'importe quoi, c'est creux, ça devient vide, et du coup voilà, vous prenez le temps de repositionner, de reposer un minimum la question de quelle transition il est question, puis comment, est-ce que pour de vrai elle existe ou pas, est-ce que ça a du sens?
Ouais, je vais essayer, mais ça, c'est encore une fois, je pense que quand j'étais à Paris, moi, je l'ai mal vécu, ça, le fait qu'on me parle de trucs, en fait, je maîtrisais pas bien, et puis je comprenais pas, et puis on n'ose pas poser la question. Du coup, j'essaye, en tout cas, de me dire, y a des gens qui savent pas du tout, peut-être, de quoi on parle, il y a des gens, je pense que je le fais pas assez, même, et je pense que l'émission, encore une fois, reste pas forcément très accessible. Alors, selon les émissions, hein, ça dépend des sujets aussi, bien sûr. Mais, c'est vrai que j'apporte du choix, et je le dis aux invités quand elles arrivent, je leur dis, bon, attention, c'est pour de la radio FM, parlez à des gens qui connaissent pas les concepts, ça m'intéresse pas que vous me disiez, ah oui, parce que dans la théorie politique de Marx, il s'est passé ça, machin truc. C'est hyper intéressant pour des gens qui connaissent, mais on va, nous, là, s'adresser aussi à des gens qui l'ont jamais lu, qui savent pas de quoi on parle. Et en fait, on peut quand même expliquer, les problématiques d'aujourd'hui avec des références d'aujourd'hui et en tout cas d'essayer de toucher plus de monde, quoi. Donc j'essaye de faire attention à ça. Bon, après, voilà, c'est comme tout. Des fois, on a un peu moins de temps ou des fois, il y a des choses qui m'échappent. Bon. Voilà.
Ce qui est intéressant dans ce que tu dis là, c'est que tu penses ton podcast, entre guillemets, comme une émission radio. Tu l'as pensé au départ comme de la radio?
Ouais, pour moi, de toute façon, le podcast, c'est de la radio. C'est de la radio en mobilité. C'est des fois... c'est du son en mobilité. Nous, on fait du son, là, en l'occurrence, à l'antenne. Et c'est bien plus agréable quand même d'être en direct et d'être à l'antenne avec ce micro, cette bête tape, ce studio. J'avoue, hein, ça le plaisir de ça. Ouais. Mais en tout cas, moi, oui. Je pense... Moi, quand on dit « tu fais un podcast », je fais une émission radio. Elle est en podcast, c'est très bien. Mais je fais une émission radio pour de de l'AFM et pour de l'AFM locale sur des petites radios pour compléter souvent des grilles où il n'y a pas ça parce qu'on est dans des coins où bah, les gens ils viennent pas spécialement ou c'est un peu plus dur d'avoir ces... Mais moi, je considère que c'est aussi important d'avoir ces paroles-là sur ces petites antennes. Enfin, alors, je vais paraître complètement élitiste en disant ça, mais bon, moi, j'écoute France Culture, par exemple, le matin, même si Guillaume Erner m'énerve. Il a quand même des très bons invités, souvent, parce qu'il a très peu de politique, en fait. Et c'est souvent, justement, des sociologues, des gens intéressants, des philosophes, des j'en sais rien. Et souvent, il y en a, je me dis, ah, mais cette personne-là, c'est vrai que c'est quelqu'un, ben, peut-être on l'écoute sur Culture. Mais en fait, cette personne-là, il faut qu'elle vienne nous parler à nous toutes et nous tous qui n'écoutons pas ces radios, qui en plus vont être des fois jugées parisiennes, élitistes, lointaines, et elles le sont, et il n'y a pas de souci là-dessus. Mmh. Mais du coup, voilà, moi, je me dis, Anne Marchand, par exemple, dont on parlera peut-être tout à l'heure, je sais que je l'avais entendu par hasard dans un podcast sur les maladies professionnelles. Bon, c'était un LSD sur Culture. Et moi, je connais plein de gens qui n'écouteront jamais un LSD.
C'est j'avais vrai, fait un, pourtant, ouais, c'est magnifique, cette émission.
Bah, c'est magnifique, c'est mais magnifique. C'est aussi des habitudes d'écoute.
Ouais,
et
je suis
des...
d'accord.
Et j'avais essayé avec mon père sur une émission sur les oiseaux. Je m'étais dit, bon, il adore les oiseaux. Tiens, je vais lui envoyer. Il m'a répondu juste, j'ai tenu 5 minutes. Voilà. Bon, okay. Donc je me dis, ok. En fait, les formats de radio documentaire, enfin, il y a certains formats radiophoniques qui vont pas être accessibles. Voilà, les gens vont pas avoir envie d'écouter ça. Donc, faut essayer de faire un peu de tout, en fait. Et du coup, je me disais, ça, voilà, c'est intéressant sur une radio locale. En tout cas, l'émission est pensée pour des auditeurs auditrices.
Et puisqu'on parle d'auditeurs, d'auditrices, de radio, etc. Alors, on est toujours sur Cause Commune 93.fm, mais l'une des questions qui me vient, c'est est-ce que tu as des retours d'auditeurs, d'auditrices qui te contactent en te disant bah et si tu traitais ce sujet-là ou ce sujet, enfin un dialogue avec eux et elles.
Alors, non, plutôt pas. Mais d'abord parce qu'ils me contactent pas forcément en direct. Par contre, j'ai des retours. Des radios, voilà.
Diffuse,
mais souvent, c'est plus pour dire, ouais, c'était hyper intéressant, mais je pense qu'ils me font confiance à choisir des sujets un peu intéressants. Par contre, c'est les copines, des copines à moi qui m'envoient, parce qu'elles ont trouvé une meuf super intéressante, elles me disent, oh, mais tu veux pas l'inviter? J'ai trop envie de l'entendre. du coup, voilà. Du coup, ça arrive avec des copines, ouais, qui lisent des bouquins et qui me disent, ah, tu devrais inviter un tel, ouais, une telle ou une telle. Voilà.
Mais ça m'amène une autre question. Quand on préparait l'émission avec Isabelle, on se demandait qui tu étais. En fait, non, mais c'est vrai.
Maintenant, on le sait.
Oui, mais en fait, tu te mets, on sait pas vraiment ton prénom, ton nom de famille, qui tu es. Là, tu viens de nous le dire au micro, tu travailles, tu accompagnes de la recherche plutôt sur le handicap, etc. Mais on s'est posé et on s'est demandé si c'était une volonté de plutôt laisser, et même sur tes fiches de podcast, tu mets en valeur tes invités, mais toi, tu ne te présentes pas vraiment, la petite blanche,
bon, c'est ton surnom, mais...
Ouais. Alors, je vais répondre aux deux, mais ça fait complètement écho à ce que tu disais tout à l'heure de le syndrome de l'imposteur.
Ouais.
C'est vrai que quand j'ai commencé, notamment, je me disais, bon, enfin voilà, c'était très modeste, ça allait toujours, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, j'avais un peu... j'ai pas honte, enfin, j'assume complètement tout ce que je fais en règle générale, et je le fais avec plaisir, et je fais des trucs parce que ça m'intéresse de les faire, et que je pense que ça peut intéresser d'autres gens, mais c'est vrai que je me dis, ça intéresse personne de savoir que je m'appelle Blandine, ça intéresse personne de savoir ceci ou cela. Bon,
oui,
le nom La Petite Blanc, alors du coup, je m'appelle Blandine Lacour, j'assume complètement aussi mon nom de famille, même s'il fait un peu, je sais pas, il doit faire un peu bourgeois, le nom de famille, je sais pas, bon, Lacour, je sais pas d'où ça vient, mais voilà, j'aurais préféré m'appeler, je sais pas, bon, bref. Mais pourquoi j'ai choisi le pseudo La Petite Blanc, ça, c'est parce qu'il y a une dizaine d'années, j'ai fait des petites BD avec mon meilleur ami Galou, qui est un garçon, mais qui a raconté les aventures d'une petite lesbienne en BD. Et on a fait on a passé de très bons moments avec cette petite blanc, et c'est là que j'ai beaucoup fait de militance et rencontré plein de gens intéressants, etc. Et du coup, j'ai gardé ce pseudo parce que les aventures de la petite blanc, c'était mes aventures en BD. Et du coup, voilà, j'ai gardé ce mot, la petite blanc. Mais alors, la petite blanc, comme c'est compliqué, que personne ne sait jamais comment l'écrire, voilà. Des fois, je le dis pas trop. Et puis, du coup, après, je me disais, oh, mais ça fait un peu prétentieux de dire bonjour, je suis la petite blanc et vous êtes sur. Bon. Alors, c'est vrai que des fois, je le fais pas, mais je me dis, effectivement, c'est dommage. Et moi, la première, je n'aime pas écouter une radio et ne pas savoir qui parle. Ouais. Donc, d'ailleurs, je répète assez régulièrement, en général, le nom de l'invité, parce que je sais que la radio FM, on va la brancher à n'importe quel moment. Et justement, c'est pas comme une écoute d'un podcast qu'on a téléchargé. Du coup, ça, je le fais vraiment à l'antenne. Mais c'est vrai que moi, je m'oublie un peu. Mais j'apprends à le faire. Voilà. Mais il m'a fallu, c'est la 6e saison, 60 émissions. Et ça fait pas si longtemps que je me dis, allez, on assume. Bonjour, je suis la petite blanc. Et,
Non, je suis Blandine Lacour. Ouais. Et vous écoutez une émission sur Cause Commune qui présente la série Du poil sous les bras avec Isabelle Carrère qui se marre et Jérôme Sorel qui est en régie et qui parfois prend la parole.
Et qui c'est qui chante le générique? C'est Marianne James que j'ai croisée dans une soirée, je ne sais plus ce que c'était, à Paris. Et je lui fais « Ah Marianne, tu ne veux pas me faire un truc? Je vais faire une émission. » Donc c'était il y a plus de 6 ans.
Ouais,
puis on est dans un couloir, elle m'a fait « Ah oui, oh, la petite blonde dans le poil, sous les bras. » Et puis du coup, voilà, je ne suis pas la plus douée techniquement, je ne suis pas la plus douée, je ne suis pas très créative au niveau sonore.
Mais
ou
Du
autre.
Poil sous les bras, c'est elle ou c'est toi qui as trouvé le nom?
C'est moi, je, c'est toi, du poil sous les bras, ça vient aussi, mais d'ailleurs, attends, je vais y revenir, mais juste pour finir sur le montage sonore, c'est vrai que je suis pas la plus douée pour ça, donc ça reste assez simple, assez basique, et j'en profite pour quand même remercier Marie-Lou Henri-Viel, qui fait de la création sonore, qui est à Montpellier, et qui m'a écrite la musique, voilà, au début j'avais pris des sons un peu comme ça sur Internet, et là c'est elle qui a fait cette générique, et tous les thèmes de l'émission, voilà, qui vont finir par me sortir par je sais pas voilà au bout d'un moment j'en peux
tu
plus
penses,
du,
en
mais en même temps ça c'est assez
une signature.
Identifié
oui, voilà c'est une signature.
J'aime bien l'idée pour revenir qu'est-ce que tu me disais à l'instant Isabelle
D'où vient ce nom du poil
du poil sous les bras voilà alors je pense que c'était quand j'étais en Drôme. Moi, je faisais du water polo à Paris. Je pars de loin, mais dans un club gay et lesbien qui s'appelle Aqua Homo à l'époque, qui s'appelle Outsiders maintenant. Si vous avez vu les crevettes pailletées, voilà, c'était mon club. Mm-hmm. Bref. Et à l'époque où j'étais à Paris, je m'épilais effectivement les jambes sous les bras et ça me paraissait, je veux dire, non seulement normal, mais en plus, je pense que j'aurais jamais osé. Et je me souviens d'une copine qui était venue d'ailleurs à l'époque avec du poil sous les bras et les garçons avaient trouvé ça. Voilà, bon, chez les gays, il y a beaucoup de sexisme aussi, mais bref, quand après je suis partie à la campagne où là, finalement, c'était l'inverse, c'est-à-dire toutes les copines avaient du poil sous les bras et moi, dès que j'en avais pas, j'étais là, oh mince, j'en ai pas, c'est trop la honte. Donc ça a complètement retourné mes problématiques. Et aujourd'hui que je vieillis, par exemple, j'ai moins de poils sur les jambes, je me dis, oh c'est horrible, j'ai moins de poils sur les jambes.
J'ai moins de poils sur le passé.
Vous m'auriez dit ça il y a 20 ans, j'aurais jamais cru que ça pourrait m'arriver un jour de regretter ça. Mais voilà, et du coup, comme il faut bien choisir un nom à un moment, j'avais appelé ça du poil sous les bras parce que c'était dans mes réflexions du moment. Mais du coup, je trouvais ça assez marrant aussi. D'inviter mes invités à dire un truc sur leur poil.
Voilà.
Et ça donne des fois des moments.
Il y a une question
un
systématique chaque émission.
Puis j'aime bien ça, faudrait que je le retravaille, mais j'aime bien essayer de déplacer aussi. Les nanas viennent, les invités, c'est des expertes dans leur domaine, ok. Mais en fait, c'est toujours intéressant d'essayer de capter un peu d'autres petites choses de la personne qui nous parle et de, voilà, ça peut attirer, ça peut faire rebondir. Et en tout cas, la question des poils, elle est quand même extrêmement intéressante et elle suit les évolutions, les âges, les lieux où l'on vit. Donc, c'est toujours extrêmement intéressant pour moi de savoir quel est le rapport aux poils, non seulement de mes invités, mais des femmes que je connais en règle générale, quoi. Bon, pour les hommes, c'est un petit peu moins compliqué.
Oui, mais c'est un sujet aussi.
Mais
ça devient de plus en plus. Et ça devient de plus en plus.
Oui, et puis moi qui ai beaucoup fréquenté des gays, c'est complètement aussi un sujet entre ceux qui s'épilent complètement, notamment dans les clubs de sport que moi j'ai fréquenté, ou au contraire les bears qui assument complètement d'être poilus et beaux, hyper poilus. Enfin voilà, c'est un sujet qui est très en lien, en fait, avec notre société et notre actualité. Donc, c'est à mon avis, on pourra en parler encore pendant des années. Ça restera passionnant.
Isabelle, on met un petit extrait, peut-être
parce que, alors là, du coup, on est vraiment...
Tu vois, parce qu'il est 16h48.
Bien, toi, il est 16h48. Ouais, il est 16h48. On a plein de choses qu'on voulait dire encore.
Je suis une
pipelette. Ah non, mais nous aussi. On est tous des pipelettes, et donc, du coup, on a plein de
trucs. Est-ce que, par exemple...
Mais un extrait, il faut que je le présente. Ou alors, tiens, c'est ce que tu pourrais faire. Non, celui avec...
Ou sinon, Hubert. Moi, je veux bien attaquer Hubert.
Ah, bah, si tu veux attaquer.
Allez, et je te dirai après, moi, ce que j'ai aimé et ce que j'ai trouvé un peu moins intéressant dans cette émission.
Ouais, fils, t'as vu, attention.
C'est la peur qui maintient les chauffeurs chez Uber. Peur de perdre le peu qu'ils ont. Sous prétexte d'emploi, les plus précaires sont contraints à tout accepter. Le chauffeur Uber racisé, c'est le nouveau épicier maghrébin. La version mise à jour de la main-d'œuvre abondante, sans qualif, vulnérable. Les chauffeurs sont pour Uber un matériau humain ultra flexible, pris dans l'engrenage de la dépendance.
En fait, c'est le premier que j'écoute, celui-ci, quand on se répartit le boulot. Moi, il m'intéresse parce que c'est un sujet que j'évoque de près ou de loin, des sujets dans l'émission sur le vélo que j'ai toutes les semaines. Et en fait, ma première réaction à l'écoute, elle est quand même assez mitigée. Je m'intéresse qu'au fond, pas à la forme, parce que je trouve que la forme, bon, je l'ai dit, je trouve que c'est super, mais dans le fond, il y a un sujet sur le racisme, le capitalisme racial. Je trouve qu'il y arrive très tard dans l'émission, c'est-à-dire qu'il arrive à peu près à la 25e ou 27e minute. Donc on a 25 minutes avant où on parle d'un système capitalisme, d'un changement de société. Et à l'arrivée, j'ai presque l'impression qu'il y a un vrai décalage entre... C'est hyper intéressant parce que malgré tout, j'apprends des choses, il y a des chiffres qui sont posés, mais j'ai l'impression que le sujet de la racialisation, il passe complètement à côté de l'ensemble de l'émission.
C'est fort possible. En tout cas, je sais que c'est un défaut que j'ai de souvent, je veux tellement border le truc, bien expliquer la base et le contexte, que des fois je me retrouve effectivement à me dire « Ah merde, ça fait 35 minutes que la personne parle et finalement j'ai peut-être trop posé le contexte large, etc. » Donc, je ne l'ai plus exactement en tête cette émission, mais et c'est fort possible effectivement que cette question du capitalisme racial et donc du fait que ces chauffeurs, enfin voilà, que ce soit la poursuite de politiques raciales ou coloniales, on peut dire comme on veut, mais ça a été effectivement peut-être moins abordé dans le sujet. Après, moi, je me dis... Alors, bon, en tout cas, je prends acte. Bon, elle est faite.
Et je te dirai après aussi le ce qui me... Enfin, vas-y. Ouais.
Et par contre, je me dis, ce que dans les émissions, je n'ai pas trop de soucis, des fois, d'exhaustivité, en tout cas. Je me dis, j'ai envie d'intéresser les gens et qu'après, qu'ils aillent s'intéresser au sujet. Du coup, j'espère que même si j'ai raté de leur expliquer tout bien ça, de rentrer plus en profondeur, je me dis, j'espère qu'ils retiennent un petit truc. Et en fait, c'est ça qui m'intéresserait, par exemple, si un jour j'avais vraiment des retours sur l'émission, c'est OK, si vous avez gardé deux, trois idées, et d'ailleurs, c'était une idée que j'avais et que je vais peut-être mettre en place, c'était en fin d'émission de me dire, OK, moi, dans l'émission, voilà, j'ai retenu ça, il y a vraiment ces trucs-là qui sont hyper intéressants.
Et l'autre chose que j'ai trouvé pour le coup, quand on écoute l'émission sur le coup de la virilité, ce que je trouve malgré tout là, et pourtant tu t'adresses de temps en temps à tes auditeurs et auditrices, je trouve pas de proposition de solution. Où là, en gros, il faudrait dire, consommez, vous qui nous écoutez, que quand vous consommez de l'Uber, consommez-le différemment et soyez-en conscient de tout ce que ça implique derrière. Chose que j'ai trouvé dans l'émission sur la virilité, où à un moment donné, il y a des solutions qui sont proposées sur, on a fait ces constats-là, on a compris que c'était comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, je le trouve pas.
Dans le coup de la virilité?
Non, je le trouve pas dans Uber.
Moi, en fait, je me dis, les gens, ils écoutent. Après, ils sont libres. S'ils veulent continuer à consommer du Uber, ils participent à ça. Après, c'est compliqué aussi des fois parce que, d'abord, les chercheurs qui cherchent, ils cherchent pour expliquer un système. Ils sont pas forcément là, ils ont pas forcément vocation à dire, il faut que vous fassiez ça. Ils ont vocation à apporter ces analyses, notamment aux décideurs publics et autres qui pourraient mettre en place des choses. Mais ils ont pas vocation à dire à la personne lambda, à l'auditeur, Et surtout, moi, j'essaie d'éviter ça pour pas culpabiliser les gens. me dire que aussi, je connais pas tout. Donc, il y a des gens, ils prennent des Uber parce que, et ils ont peut-être des raisons qui sont pas les miennes, que je connais pas. Et du coup, je vais quand même essayer d'éviter, même si des fois je vais glisser, la prochaine fois que vous prenez un Uber, vous participez à ça. Mais c'est aussi des systèmes complexes, et des fois je fais pas dans la nuance, justement, et ça on pourrait me le reprocher. Et en fait, c'est des sujets qui, politiquement, vont demander du temps long et de la nuance. Et tu vois, si aujourd'hui plus personne prenait de Uber, en fait, ce serait aussi une problématique pour plein de gens. Donc, voilà, j'essaye en tout cas de leur faire sentir ce que moi j'en pense, mais bon, après...
Mais ce qui est intéressant, là, tu parles du mot culpabilisant, et après je te redonne la parole Isabelle, sur le coup de la virilité, donc je l'écoute, moi je suis un mec, je sais que j'écoute une émission où ce ne sont que des invités et eux, et donc c'est que des voix féminines qui parlent, j'écoute ça en me disant, bon, qu'est-ce que je vais me prendre dans la gueule, et à l'arrivée... Je me sens pas culpabilisé du sujet. Je l'écoute, j'apprends plein de choses, j'apprends que ça coûte 100 milliards par an, enfin, et j'apprends que finalement... On a des solutions, mais elles sont. Je me sens pas. Comment dire. Ouais, je me sens pas coupable ni de ce qui se passe. Je me sens concerné, mais pas coupable.
Bah tant mieux, parce que je pense que l'idée c'est pas que les mecs se sentent coupables. L'idée c'est que les mecs et les nanas d'ailleurs prennent conscience que juste la façon dont on éduque, bah ça a des conséquences derrière. Et la solution, mais que ce soit pour ça et puis même peut-être pour l'Uber, c'est l'éducation. C'est est-ce qu'on veut une société comme ci ou comme ça. Tant qu'on éduquera les petits garçons, je sais pas, à mettre du pipi partout autour de la cuvette et pas à s'asseoir pour faire pipi, bon,
ouais.
Voilà, la raison de base, elle vient d'où? Bah, de
pas grand chose. Baisse ta culotte
et assieds-toi. Voilà, ouais. Elle vient que c'est les femmes qui nettoient et que du coup, bah, le petit garçon, il va vite prendre. Bon, bref, c'est un exemple, mais c'est pour dire, et tant mieux si tu te sens pas culpabilisé. Moi, mon but, c'est pas de culpabiliser les mecs, c'est pas au contraire. Et en fait, de toute façon, on a besoin de tout le monde et d'être tous ensemble conscients parce qu'au final, tout le monde va y gagner, quoi. Ça va faire du bien à tout le monde. Donc tant mieux si ça t'a pas culpabilisé. Et ça prouve quand même déjà un certain degré de déconstruction. Parce qu'effectivement, la grosse problématique quand même sur ces sujets-là, c'est que dès qu'on dit un truc à un mec, comme, les mecs ont quand même beaucoup moins l'habitude de s'en prendre plein la figure. Et alors, je vous donne juste un petit exemple. On avait fait une autre BD avec Galou qui s'appelait, je sais plus comment ça s'appelait, Sois gentil, tais-toi et dors. Et c'était un mec et une femme au lit. Et tous les soirs, le mec, il avait envie. Et tous les soirs, la meuf, elle l'envoyait bouler, quoi. Donc, c'était assez simple comme concept. Et ben, à Angoulême, un jour, il y a un mec qui vient me voir, il me fait, ouais, c'est dégueulasse, votre BD, c'est vachement dur pour nous, les mecs. J'étais là, mais gars, en fait, et derrière moi, il y avait les stands des éditions Tabou, avec que des gros gars qui dessinaient des meufs à poil. Enfin, partout à Angoulême, il y avait quand même, et lui, il venait me voir, je lui disais, mais si, le problème, c'est que tu te sens, toi, agressé par ça, quoi. Ouais, genre, ouais. Nous, les blagues sur les blondes, bah, on les prend pas toutes à titre perso, quoi. Voilà. Et on a beaucoup plus l'habitude, de laisser parler, de laisser faire. Et je pense que les garçons l'ont moins. Et du coup, il y en a qui peuvent être, se sentir agressés, alors que le but, c'est pas d'agresser les gens, c'est d'avancer ensemble.
Isabelle, il est 16h55.
Ouais,
si tu veux passer un extrait, je pense que c'est le moment.
Ouais, le petit extrait avec Mathilde Forger sur sa vision de l'enfance.
D'un espèce de désespoir et de me dire comment je vais faire si je dois être une fille féminine et que je dois aimer les garçons et que c'est quelque chose que je ne peux absolument pas faire ou qui va me rendre très malheureuse, quoi. Et j'étais vraiment désespérée, quoi. Je me disais, bon, voilà, j'ai 8 ans, il va me rester combien d'années à faire semblant? Enfin, c'était comme un casse-tête, quoi. Je me disais, c'est horrible, il y a forcément une sortie, quoi, quelque part. Et moi, j'ai mis énormément de temps, en fait, à dire que je suis lesbienne, vraiment beaucoup beaucoup, quoi. J'ai même après même en étant en couple avec des filles, quoi, je pense que ça fait que 4-5 ans, quoi, vraiment que je le dis et que ça me fait plus peur. J'avais toujours peur, en fait, qu'il se passe un truc. On a toujours peur qu'il se passe un truc parce que la lesbophobie existe vraiment. Donc quand tu le dis, tu sais pas ce qui va se passer en face. Tu sais pas si tu vas être rejeté, tu sais pas si tu vas être carrément frappé, tu sais pas si tu vas perdre ton emploi, tu sais pas si tu vas perdre tes amis, perdre ta famille. Tu sais qu'il va y avoir une réaction. Enfin, je veux dire, on grandit avec en revanche, la lesbophobie, ça, on sait que ça existe, quoi.
Voilà, je voulais passer cet extrait parce que tu as parlé beaucoup de gens ou de femmes qui étaient des expertes. Et là, pour moi, c'est elle est sûrement experte de plein de choses, mais elle est d'abord une artiste, une poète, et elle est d'une authenticité et d'une douceur dans cette déclaration que je trouve géniale. Toute cette émission est superbe avec Mathilde, et je trouve que dans celle-là, vous avez trouvé un ton qui est vraiment, vraiment intéressant pour aller évoquer, aller chercher les gens, les personnes sur leur enfance, puis qu'est-ce que c'est devenu maintenant, versus l'acte politique qui est, oui, la lesbophobie existe là, toujours, encore maintenant. Elle est très belle, cette émission.
Bah, elle est très belle, ouais, grâce à Mathilde, et qui est une personne que j'aime beaucoup et qui est extrêmement touchante, qui a fait deux livres que je conseille à la demande d'un tiers et de mon plein gré, où elle raconte aussi comment elle a été reçue dans un commissariat après un viol et comment c'est compliqué. Et d'ailleurs, elle a porté plainte et ça a été reconnu en crime lesbophobe. Enfin bref, elle est extrêmement intéressante, cette émission, parce que c'est vraiment pas les émissions que moi, dans lesquelles moi je suis à l'aise. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'analyse, de trucs, voilà. Du coup, quand je l'ai fait, moi, j'adore parler avec Mathilde, mais je me suis dit, ah bon, je sais pas trop si ça va intéresser. Et ben, par exemple, dans mon village, à l'époque, il y a une mère de hétéro qui est venue me voir, qui m'a dit, ah, oh, elle est super, cette émission, elle m'a vachement parlé. Je me suis dit, qu'il y a une petite fille qui avait à l'époque 3-4 ans, et elle m'a dit, ah, j'ai appris plein de trucs, ça m'a permis de me poser des questions, etc. Et je me suis dit, ah, c'est génial, et je me suis dit, ah, faut que je fasse gaffe à ça. Et moi, je pars de moi, et en fait, je me rends plus compte des fois de à quel point ça peut aussi intéresser des gens. Et voilà. Et en tout cas, j'ai cette liberté du poil sous les bras d'avoir des invités un peu différents. Je parlais tout à l'heure des paysannes en polaire. C'est pareil, bah, c'est des copines, elles sont paysannes, elles n'ont pas non plus écrit une thèse là-dessus. Mais j'aime bien aussi avoir les savoirs expérientiels, comme on dit, nous, justement, dans le champ du handicap, c'est-à-dire des gens qui racontent leurs expériences de vie et qui sont tout aussi intéressantes parfois.
On va devoir arrêter là, mais c'est génial. C'est que juste les gens aient vu là et nous aient entendu pendant une heure démontrer la vastitude de à la fois du chant, le format, même s'il est un peu le même, quand même il y a des façons de faire hyper différentes selon tu as une capacité à t'adapter à la personne, à la thématique. C'est génial. Et donc nous, enfin moi je suis vraiment contente que Cause Commune passe à partir de très bientôt. Ben, là tout de suite. Une émission, celle avec Anne Marchand. T'as pas le temps d'en parler. Désolé, mais sur les cancer professionnel, mais et aussi ensuite régulièrement, puis tout l'été, puis après, et vraiment merci beaucoup à la fois du travail, de la production, puis de voilà, d'être venu vers nous. C'est chouette.
Avec grand plaisir, merci à vous.
Et puis pour Cause Commune, en espérant que cette première émission qui présente les autres émissions, celles des autres, ce soit la première d'une longue série. Ça vaut peut-être qu'il y aura plein de gens qui vont se dire, mais moi aussi, je produis des podcasts, je produis des émissions radio, j'ai envie que ce soit diffusé là. Et je trouve que c'est important, c'est l'idée qu'on avait eue, c'était de, plutôt que de balancer sans expliquer, je trouve que c'est important d'expliquer aux auditeurs ce qu'ils vont essayer de découvrir.
Ouais. Et juste un mot sur, du coup, l'émission avec Anne Marchand, quand même, pour dire, puisqu'on est quand même ici dans les locaux de la radio, Porte de Saint-Ouen, juste à côté du 93. Ouais. C'est un énorme boulot qu'a fait toute une équipe de recherche sur la Seine-Saint-Denis et c'est extrêmement intéressant. Voilà, du coup, encore plus si vous êtes dans des coins comme la Seine-Saint-Denis ou dans le coin. Voilà.
Génial. Merci beaucoup. À
bientôt. Tout l'été, du poil sous les bras.
Ouais.
Par la petite blanc.
Merci beaucoup.
Merci, c'était Cause Commune 93.fm et maintenant vous allez écouter le premier épisode que Cause Commune a envie de diffuser. C'est tout de suite.